Chapitre 3 Idylle enfantine. Grâce au régime institué sur le plan de Maxime, l'aveugle était livré, en tout et partout où c'était possible, à ses propres ressources, et cela amena les meilleurs résultats. À la maison, il n'avait nullement l'air d'un infirme. Il marchait toujours d'un air assuré, faisait lui-même sa chambre, tenait dans un certain ordre ses joujoux et ses effets. En dehors de cela, autant qu'il était possible, Maxime n'oubliait pas les exercices physiques. L'enfant avait exprès pour lui un trapèze, et quand il eut 5 ans passés, Maxime fit cadeau à son neveu d'un petit cheval fort doux. La mère ne pouvait d'abord se faire à la pensée que son enfant aveugle pût monter à cheval. Elle taxait de folie le projet de son frère. Mais l'invalide usa de toute son influence, et 2 ou 3 mois plus tard, le petit garçonnet galopait gaiement à côté de Joachim, qui n'intervenait qu'au détour. De cette façon, la cécité n'empêcha pas le développement physique régulier de l'enfant, et son influence sur le moral de Pietroussa fut grandement atténuée. Pour son âge, il était élancé, svelte. Son visage était un peu pâle, ses traits fins et expressifs. Ses cheveux bruns faisaient ressortir encore davantage la blancheur de son teint, et ses grands yeux noirs et presque immobiles lui donnaient une expression caractéristique qui enchaînait en quelque sorte immédiatement l'attention. Un léger pli au-dessus des sourcils, l'habitude d'avancer un peu en avant la tête, les nuages qui de temps à autre assombrissaient sa jolie figure, c'étaient là les seuls indices de sa cécité. Ses mouvements dans un milieu connu de lui étaient assurés, mais on pouvait néanmoins remarquer que sa vivacité naturelle était étouffée et ne se manifestait que de temps à autre par d'assez brusques effusions nerveuses. Maintenant, les impressions de Louis prenaient définitivement dans sa vie d'aveugle une influence prépondérante. Les formes acoustiques devinrent les formes principales de sa pensée, le centre de son travail intellectuel. Il apprenait les chansons en écoutant avec attention les airs qui le captivaient, s'en assimilait le sujet, qu'il colorait à sa guise, d'une mélodie tantôt triste, tantôt gaie, tantôt rêveuse. Il saisissait encore plus attentivement les voix de la nature environnante, et en confondant ses impressions confuses avec les mélodies natales, il savait de temps à autre les généraliser par une improvisation libre, dans laquelle il était difficile de reconnaître où finissait la mélodie populaire, familière à l'oreille, et où commençait sa puissance créatrice propre. Lui-même ne pouvait non plus séparer dans ses chansons ces 2 éléments, tellement ils étaient confondus l'un et l'autre. Il apprenait vite tout ce que lui enseignait sa mère, que lui montrait à toucher du piano. Mais il aimait aussi le chalumeau de Joachim. Le piano était plus riche, plus sonore et plus puissant, mais il était confiné dans l'appartement, tandis que le chalumeau, il pouvait le prendre avec soi quand il allait dans les champs. Et là, ses modulations se mêlaient si impidement avec les légers soupirs du steppe que parfois Pietroussa ne pouvait se rendre compte si c'était le vent qui lui apportait du lointain ses vagues rêveries ou si c'était lui-même qui les exhalait de son chalumeau. Cette passion pour la musique était devenue le pivot de son développement intellectuel. Elle remplissait et variait son existence. Maxime en profitait pour faire connaître à l'enfant l'histoire de son pays. Elle passa entière devant l'imagination de l'aveugle, tout imprégnée des sons. Après s'être intéressé aux chansons, il s'intéressait à leurs héros, à leur sort et à celui de sa patrie. Il prit ainsi le goût de la littérature, et quand l'enfant eut achevé sa 8e année, Maxime aborda les premiers rudiments. Ses leçons habiles, Maxime avait dû pour cela étudier les procédés spéciaux de l'enseignement des aveugles, plaisaient beaucoup à l'élève. Elles introduisaient dans son âme un nouvel élément, la précision et la clarté qui contrebalançaient ses sensations musicales trop confuses. De cette façon, la journée du garçonnet était entièrement remplie. On ne pouvait se plaindre de la pauvreté et des impressions qu'il ressentait. Il semblait qu'il vécût d'une vie pleine, autant qu'il est possible à un enfant, et il semblait aussi qu'il ne s'aperçût pas de sa cécité. Mais en même temps, une mélancolie étrange, et qui n'avait rien d'enfantin, se faisait jour à travers son caractère. Maxime l'attribuait à l'absence de compagnons de son âge, et tâchait de remédier à cet inconvénient. Les garçons du village, qu'on invitait à la métairie, faisaient les sauvages et ne pouvaient déployer librement toutes leurs ressources. Outre que ce milieu étranger leur en imposait, ils étaient trop troublés par la cécité du panitch et jetaient sur lui des coups d'œil craintifs et, serrés en un seul groupe, ils se taisaient ou se parlaient tout bas, timidement l'un à l'autre. Quand on laissait les enfants seuls dans le jardin ou dans le champ, ils devenaient plus dégourdis, organisaient des jeux. Mais, dans ces occasions, l'aveugle était toujours mis de côté et ne prêtait qu'assez tristement l'oreille au gai tapage de ses petits camarades. De temps en temps, Joachim ressemblait autour de lui les enfants et se mettait à leur narrer des contes joyeux. Les gamins du village, qui connaissaient très bien et le diable petit prussien un peu niais et les sorcières méchantes, complétaient ces récits par les leurs propres, et en général, ces conversations étaient très animées. L'aveugle les écoutait avec beaucoup d'attention et d'intérêt, mais il riait rarement lui-même. Il était trop évident que l'humour des paroles vivantes demeurait en grande partie lettre morte pour lui, et ce n'était pas étonnant. Il ne pouvait voir ni la malice qui flambait dans les yeux des conteurs, ni l'épanouissement de leurs traits, ni le tressaillement de leurs longues moustaches. Peu de temps avant l'époque qui nous occupe, le petit domaine avoisinant changea de possesseur. En place de l'ancien, un homme turbulent qui avait eu un procès même avec le taciturne Popovlieski à cause de quelques dégâts causés par le bétail, vint s'installer dans la métairie voisine, le vieux Jacques Zutski avec sa femme. Quoique les deux époux n'eussent pas à eux deux ou moins de 100 ans, ils étaient mariés depuis un temps relativement court, parce que Pandriakouski n'avait pu, pendant de trop longues années, amasser la somme qui était nécessaire pour l'arrentement et avait dû servir chez les autres en qualité d'intendant. Et sa fiancée avait de son côté, en attendant, vécu en qualité de dame de compagnie honoraire chez une comtesse N. Enfin, quand le moment tant désiré fut arrivé, quand le futur se plaça à côté de la future dans l'église, les cheveux et les moustaches de l'époux étaient complètement gris. Le visage de la fiancée, que la pudeur colorait, était également encadré de boucles argentées. Cette circonstance n'empêcha pas cependant le bonheur conjugal, et le fruit de cet amour tardif fut une fille unique qui avait alors presque l'âge de notre petit aveugle. S'étant arrangé sur le déclin de leurs jours un petit coin à eux, ils pouvaient relativement se croire maîtres absolus. Les deux vieillards y vécurent tranquillement et modestement, comme pour se dédommager par le calme et la solitude des années laborieuses de leur vie pénible chez les étrangers. Leur premier arrendement se trouva être assez peu avantageux et ils durent diminuer leur train de maison. Mais à leur nouvelle place, ils eurent s'installer immédiatement à leur fantaisie. Dans le coin occupé par les icônes encadrées de lierre, la vieille dame plaça, avec la palme et la Gromnitsa, quelques petits sacs contenant des herbes et des racines, à l'aide desquels elle traitait son mari et les moudjiks avec les paysannes qui venaient la consulter. Ces herbes remplissaient toute la maison d'un arôme particulier et spécial qui restait étroitement lié dans la mémoire de chaque visiteur avec le souvenir de cette petite maison proprette, de son calme et de son ordre, et des deux vieillards qui vivaient d'une vie fort tranquille pour notre époque. De la société de ces deux vieillards grandissait leur fille unique, toute mignonne, avec une longue tresse blonde et des yeux bleus, et qui, à première vue, frappait tout le monde par l'air étonnamment réfléchi de sa physionomie. Il semblait que la placidité des parents se fût répercutée dans le caractère de la fille par un bon sens au-dessus de son âge, par une gracieuse quiétude des mouvements, par la rêverie et la profondeur de ses yeux bleus. Elle ne fuyait jamais les étrangers, n'évitait pas de faire connaissance avec les enfants et de prendre part à leurs jeux. Mais elle s'y prêtait avec une condescendance évidente, comme si pour elle, personnellement, elle n'en eût pas besoin. Et en effet, elle se contentait parfaitement de sa propre société, se promenant, cueillant des fleurs, conversant avec sa poupée, le tout d'un air tellement posé que parfois vous auriez pensé avoir devant vous non point une enfant, mais une petite femme en miniature. Un jour, Pietruccia se trouvait tout seul sur la petite colline près de la rivière. Le soleil se couchait, tout était calme. On entendait dans l'air que le beuglement, adouci par la distance, des troupeaux rentrant dans le village. L'enfant venait de quitter son chalumeau. Il s'était couché sur l'herbe et se laissait envahir par la langueur assoupissante de cette soirée d'été. Il s'ensommeillait depuis un instant, quand tout à coup des pas légers le tirèrent de son assoupissement. Il s'accouda avec humeur et prêta l'oreille. Les pas s'arrêtèrent au pied de la colline. La démarche lui était inconnue. « Petit garçon, fit souvent soudain une voix enfantine, ne saurais-tu pas qui est-ce qui vient de jouer ici de la flûte ?» L'aveugle n'aimait pas qu'on troublât sa solitude. Il répliqua donc à la question d'un air peu affable. « C'était moi !» Une petite exclamation d'étonnement fit la seule réponse à cette déclaration. Et immédiatement après, la voix de la petite fille ajouta d'un air de franche approbation. « Oh, comme c'était beau !» L'aveugle ne dit rien. « Mais pourquoi ne vous en allez-vous donc pas ?» demanda-t-il ensuite, en entendant que l'intruse continuait à rester sur place. « Mais pourquoi me chasses-tu donc ?» demanda la fillette de sa voix pure et naïvement surprise. Les sons de cette voix enfantine et calme produisirent une impression agréable sur l'oreille de l'aveugle. Néanmoins, il répondit sur le même ton rude, « Je n'aime pas qu'on vienne me voir. » La fillette se mit à rire. « Tiens, envoyez donc. Est-ce que le monde entier est à toi? Et peux-tu défendre à quelqu'un de marcher sur la terre que tu foules? Maman a défendu à tous de venir me déranger ici. Maman » « Maman ? » demanda la fillette d'un air fort vif. « Et la mienne m'a permis de me promener près de la rivière ?» Le jeune garçon, un peu gâté par les concessions que tout le monde lui faisait, n'était point habitué à des résistances si opiniâtres. Une bouffée de colère glissa sur son visage comme une onde nerveuse. Il se souleva et prononça d'un ton rapide et surexcité « Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Allez-vous-en !» Il est impossible de savoir comment aurait fini cette scène si en ce moment la voix de Joachim nu de la métairie appelait le jeune aveugle pour le thé. Il descendit en courant la colline. « Oh, quel vilain garçon !» fit derrière lui la fillette d'un air courroucé. Le lendemain, assise à la même place, Pietruccia se rappela la querelle de la veille. Dans ce souvenir, il n'y avait plus à présent aucun dépit contre la fillette. Au contraire, il désirait même qu'elle revînt, cette fillette à la voix si douce et si tranquille qu'il n'en avait encore jamais entendu de pareil auparavant. Les enfants qu'il connaissait criaient, riaient très fort, se battaient et pleuraient, mais aucun d'eux ne parlait si doucement. Il regretta d'avoir offensé l'inconnu qui probablement ne reviendrait jamais. En effet, pendant 3 jours, la fillette s'abstint de paraître. Mais le quatrième, Pietruccia perçut ses pas tout en bas au bord de la rivière. Elle marchait doucement. Les cailloux bruissaient légèrement sous ses pieds et elle fredonnait à mi-voix une chanson polonaise. « Écoutez » appela-t-il quand elle passa à côté de lui. « C'est toujours vous ?» La fillette ne répondit pas. Les cailloux continuaient à crier légèrement sous ses pieds. Dans ce dédain affecté, le garçon crut deviner le ressentiment d'une offense qui n'était pas encore oubliée. Cependant, après l'avoir dépassé un peu, la petite inconnue s'arrêta. 2 ou 3 secondes s'écoulèrent silencieusement. Elle arrangeait en ce moment un bouquet de fleurs des champs qu'elle tenait dans ses mains, tandis que Pierre attendait la réponse. Dans cet arrêt et le silence qui suivit, il vit une nuance de rancune préméditée. « Mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est moi ?» demanda-t-elle enfin avec un grand air de dignité, quand il eut fini d'arranger ses fleurs. Cette simple question retentit douloureusement dans le cœur de l'aveugle. Il ne répondit rien. Seulement ses mains appuyées sur le sol saisirent convulsivement une touffe d'herbe. Mais la conversation était engagée et la fillette, se tenant toujours à la même place et occupée à son bouquet, demanda de nouveau « Qui est-ce qui t'a appris à jouer si bien du chalumeau ?»« C'est Jorim, » répondit Pietruccia. « Ah, très bien. Et pourquoi es-tu si méchant ? Je ne suis pas fâché contre vous, » dit le garçonnet à voix basse. « Eh bien alors, moi non plus, je ne t'en veux pas. Allons jouer ensemble. »« Je ne saurai pas jouer avec vous, » fit-il en baissant la tête. « Tu sais pas jouer, pourquoi ?»« Parce que... Mais pourquoi donc ?»« Parce que, » répondit-il d'une voix à peine perceptible, et en baissant encore plus la tête, il n'avait jamais eu encore l'occasion de parler avec quelqu'un de sa cécité, et le ton naïf de la fillette qui lui posait ses questions avec une insistance si simple éveillait en lui une douleur sourde. L'inconnu gravit la petite colline. « Comme tu es drôle !» fit-elle avec une pitié condescendante, en s'asseyant sur l'herbe à côté de lui. « Cela tient sans doute à ce que tu ne me connais pas encore. Lorsque tu me connaîtras mieux, tu cesseras de me craindre. Moi, je ne crains personne. » Elle parlait d'une voix claire et insouciante, et le garçonnet l'entendit jeter dans son tablier une gerbe de fleurs. « Et où avez-vous pris ces fleurs ? » demanda-t-il. « Là, » dit-elle en indiquant un signe de tête à un point derrière elle. « Dans le pré ? Non, là. Ah, par conséquent, dans le bois. Et quelles sont ces fleurs ?»« Mais est-ce que tu ne connais pas les fleurs ? Comme tu es étrange, je t'assure. « Tu es étrange !» Le petit aveugle prit une fleur. Ses doigts touchaient rapidement et légèrement les feuilles et la corolle. « Oh, c'est un aconite, » dit-il, « et cela, c'est une violette !» Puis il voulut faire de la même façon la connaissance de son interlocutrice. Il lui prit de sa main gauche l'épaule, se mit de la droite à lui tâter les cheveux, puis les sourcils, et fit rapidement glisser ses doigts sur le visage de la fillette, en s'arrêtant de temps à autre et en étudiant attentivement les traits inconnus. Tout cela s'était passé si rapidement, si subitement, que la fillette, stupéfaite, ne put prononcer une parole. Elle regardait simplement l'aveugle de ses yeux largement ouverts, où se trahissait un sentiment voisin de la peur. Alors seulement elle s'aperçut que le visage de sa nouvelle connaissance avait quelque chose d'extraordinaire. Ses traits fins et pâles étaient figés dans l'expression d'une attention extrême qui n'était pas en harmonie avec son regard immobile. Les yeux du petit garçon regardaient quelque part, sans aucune corrélation avec ce qu'il faisait, et la lumière du soleil couchant s'y reflétait d'une façon étrange en teintes changeantes. Tout cela fit pour un instant à la fillette l'effet d'un pénible cauchemar. Dégageant son épaule des mains de Pietruccia, elle se mit debout en un clin d'œil et fondit en larmes. « Pourquoi m'effrayes-tu, vilain enfant ? » fit-elle d'un ton irrité et tout en larmes. « Mais qu'est-ce que je t'ai fait ?» Il restait assis à la même place, interloqué, la tête baissée, et un étrange sentiment, un mélange de dépit et de honte, lui étreignait le cœur. C'était la première fois qu'il éprouvait l'humiliation d'être un infirme. C'était la première fois qu'il apprenait que son défaut physique pouvait inspirer non seulement la pitié, mais encore la frayeur. Certes, il ne pouvait se rendre un compte exact du pénible sentiment qui l'accablait, mais s'il était confus et troublé, il ne lui en causait pas moins une vive souffrance. Ce sentiment d'une douleur cuisante et d'une offense imméritée le suffoquait. Il tomba sur l'herbe et éclata en sanglots. Ses pleurs jaillissaient de plus en plus pressés. Des contractions convulsives ébranlaient tout son petit corps, d'autant plus qu'une fierté innée le forçait à se maîtriser. La fillette, qui déjà descendait en courant la petite colline, entendit ses sanglots étouffés et se retourna avec étonnement. En voyant sa nouvelle connaissance couchée, la tête contre le sol et pleurant amèrement, elle fut prise de compassion, remonta la colline et s'arrêta devant le petit aveugle. « Écoute, commença-t-elle doucement, pourquoi pleures-tu ? Tu crois peut-être que je vais me plaindre de toi ? Eh bien, ne pleure pas, je n'en soufflerai moi à personne. » Ces paroles de compassion, ce ton cordial, provoquèrent chez Pietruccia un accès de sanglots nerveux encore plus fort. Alors la fillette s'accroupit à côté de lui. Après une demi-minute de silence, elle effleura légèrement ses cheveux et, caressante avec la douce insistance d'une mère qui calme son enfant puni, elle lui souleva la tête et se mit à lui essuyer les yeux avec son mouchoir. « eh bien, cesse donc » fit-elle d'un ton de grande personne. « Il y a longtemps que je ne suis plus fâchée. Je vois que tu regrettes de m'avoir fait peur. » « Je ne voulais pas t'effrayer, » répondit-il, en soupirant profondément pour étouffer ses sanglots. « Bien, bien, je ne t'en veux pas. Tu le feras plus, n'est-ce pas ?» Elle le soulevait de terre et essayait de l'asseoir à côté d'elle. Il obéit. À présent, il était assis comme auparavant, le visage tourné vers le soleil couchant, et quand la fillette jeta de nouveau un coup d'œil sur ce visage éclairé par les rayons empourprés, il lui parut de nouveau singulier. Les yeux étaient encore remplis de larmes, mais il continuait à rester immobile. Les traits ne cessaient d'être tiraillés par les sanglots, mais en même temps on y lisait un chagrin trop douloureux et trop profond pour un enfant. Mais tout de même, tu es étrange, prononça-t-elle sur un ton de compassion pensive. Je ne suis pas étrange, répondit l'enfant avec une expression déchirante. Non, 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 je ne suis pas étrange. Je suis aveugle. Aveugle? S'écria-t-elle en traînant sur les syllabes. Et sa voix eut un tremblement, comme si ce triste mot, prononcé à voix basse par le jeune garçon, avait porté un coup ineffaçable à son petit cœur de femme. Aveugle, répéta-t-elle d'une voix qui tremblait encore plus fort. Puis, comme si elle eût cherché une défense contre l'insupportable sentiment de pitié qui la remplissait tout entière, elle entoura brusquement de ses bras la tête de l'enfant et lui pressa le visage contre le sien. Frappée par la soudaineté de cette triste découverte, la petite femme ne put conserver sa tranquillité, et se changeant tout à coup en une enfant affligée et impuissante dans son chagrin, elle se mit à son tour à pleurer amèrement, inconsolablement. Plusieurs minutes se passèrent en silence. La fillette cessa de pleurer et de temps en temps seulement, elle faisait entendre des sanglots qu'elle aussi essayait d'étouffer. Les yeux humides de larmes, elle regardait le soleil qui s'enfonçait derrière la lombre seuil de l'horizon, semblait rouler dans la pourpre sanglante du couchant. Pour un instant encore resplendit le globe de feu, puis jaillirent deux ou trois étincelles ardentes, et les contours foncés de la forêt lointaine se profilèrent tout à coup sous la forme d'une ligne bleuâtre et continue. Une fraîcheur montait de la rivière, et la sérénité du soir tombant se reflétait sur le visage du jeune aveugle. Il restait assis, la tête baissée, et évidemment fort étonné par cette expression d'une si chaleureuse sympathie. Cela me fait beaucoup de peine, fit enfin, pour expliquer sa faiblesse, la fillette en continuant de sangloter. Puis, après s'être maîtrisée un peu, elle essaya de changer la conversation et de parler d'une chose étrangère et indifférente à tous deux. Le soleil s'est couché, dit-elle d'un air pensif. Je ne sais pas comment est le soleil, répondit tristement. Je le sens seulement. Ah, tu ne connais pas le soleil? Non. Et ta maman, tu ne la connais pas non plus? Oh, si, je la connais. Je la reconnais toujours de loin à sa démarche. Oui, c'est vrai. Moi aussi, je reconnais ma mère, les yeux fermés. L'entretien prit un caractère plus calme. Savez-vous, dit le petit aveugle avec une certaine animation, je sens le soleil et je sais bien quand il s'est couché. Et comment le sais-tu? Parce que, vois-tu, je ne sais pas expliquer comment. Ah, dit entraînant la fillette, évidemment très satisfaite de cette réponse. Et ils se turent tous les deux. Je sais lire, fit de nouveau Pietroussa, le premier, et bientôt j'aurai appris à écrire. Et comment fais-tu pour, reprenait-elle. Elle s'interrompit tout à coup d'un air gêné, sans vouloir achever cette question délicate. Mais il la comprit. Mais je lis dans mon livre, expliqua-t-il, avec mes doigts. Avec tes doigts? Oh, mais je n'aurais jamais appris à lire avec les doigts. Oh, moi, je lis même assez mal avec mes yeux. Mon père dit que les femmes comprennent fort mal les sciences. Et moi, je sais lire, même en français. Oh, mais comme tu es intelligent, s'extasia sincèrement la fillette. Mais je crains que tu ne prennes froid. Quel brouillard il fait sur la rivière. Et toi-même, oh, moi, je n'ai pas peur. Qu'est-ce qui peut donc m'arriver? Eh bien, moi non plus, je n'ai pas peur. Est-il possible qu'un homme prenne froid plus facilement qu'une femme? L'oncle Maxime dit qu'un homme ne doit rien craindre, ni la faim, ni le froid, ni le tonnerre, ni les nuages. Oh, Maxime, c'est celui qui marche à l'aide des béquilles. Oh, je l'ai vu, il est terrible. Oh non, il n'est pas du tout terrible, il est bon. Non, il est terrible, répéta-t-elle avec conviction. Tu ne le sais pas parce que tu ne l'as pas vu. Je le connais, c'est lui qui m'apprend tout. Et il te bat? Oh, jamais il ne me bat, jamais il ne crie contre moi, jamais. Ah, ça c'est bien. Est-ce qu'il est permis de battre un garçon aveugle? Ce serait un péché. Mais puisqu'il ne bat personne, dit Pietroussa d'un air un peu distrait, car sa fine oreille distinguait les pas de Joachim. Effectivement, au bout d'un instant, la haute taille du petit Russien se dessina sur la crête de la colline qui séparait la métairie de la côte, et sa voix retentit au loin dans le calme de la soirée. « Panichou !»« On t'appelle ?» dit la fillette en se levant. « Oui, mais je n'ai pas envie de m'en aller. »« Allez, va, va, je viendrai te voir demain. À présent, on t'attend, et moi aussi. » La fillette tint fidèlement sa promesse, et avant même que Pietroussa pût y compter. Le lendemain, comme il était assis dans sa chambre avec Maxime, en train de prendre sa leçon habituelle, il leva tout à coup la tête, écouta avec attention et dit vivement « Laisse-moi sortir pour un instant, c'est la fillette qui est venue. »«
Quelle fillette ?» dit avec surprise Maxime en se dirigeant avec le garçonnet vers la porte de sortie.
En effet, la nouvelle connaissance de Pietroussa pénétrait en ce moment sous la porte cochère de la maison, et la jeune voisine, en voyant la maîtresse de la maison qui traversait la cour, marcha vers elle d'un pas délibéré. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chère petite ?» lui dit Anna Mikhailovna, pensant qu'elle était envoyée pour quelque affaire. La fillette lui tendit gravement la main et demanda « C'est chez vous, madame, qu'il y a un garçon aveugle ?»«
Oui, c'est chez moi, ma chérie, » répondit madame Pobrieski, en admirant les yeux clairs et les manières dégagées de la nouvelle amie de Pierre.
« Ma mère, voyez-vous, m'a permis de venir le voir. Puis-je entrer ?» En ce moment, Pietroussa s'approcha lui-même en courant, et sur le perron apparut aussi la figure de Maxime. « C'est la fillette d'hier, maman. Je t'en ai parlé, » dit le garçon là seulement. « Seulement, c'est l'heure de ma leçon. »
« Eh bien, pour cette fois, l'oncle Maxime te donnera congé. » dit Anna Mikhailovna,
je vais intercéder pour toi.
Pendant ce temps, la petite femme en herbe, qui se sentait évidemment tout à fait comme chez elle, vint à la rencontre de Maxime, qui se dirigeait vers eux avec ses béquilles, et lui tendant la main, lui dit d'un ton d'approbation condescendante,
« Vous faites très bien de ne pas battre un garçon aveugle, il me l'a dit. »
« Pas possible, madame !» fit Maxime avec une grande gravité comique, en prenant dans sa large main la petite main de la fillette. « Comme je suis reconnaissant à mon élève d'avoir su disposer en ma faveur une personne aussi charmante !» Et Maxime se mit à rire en caressant la petite main qu'il tenait dans la sienne. Pendant ce temps, la fillette continuait à le regarder de son regard franc, qui lui gagna immédiatement le cœur du vétéran, lequel pourtant n'aimait guère le beau sexe.
Bon, « Regarde donc, Anna, » dit-il à sa sœur avec un sourire singulier, « notre Pierre commence à se créer des connaissances indépendantes. Et, conviens-en, quoique aveugle, il a sait tout de même faire un choix qui n'est pas mauvais, n'est-ce pas »«
Qu'est-ce que tu veux dire par là, Maxime ?» demanda la jeune femme sévèrement, tandis qu'une ardente rougeur lui colorait le visage.
« Mais je plaisantais !» lui répondit son frère vivement, en voyant que par sa plaisanterie, il avait touché la corde sensible, découvert la pensée secrète qui faisait jour dans le cœur prévoyant de la jeune mère. Anna Mikhailovna rougit encore davantage,
et se penchant prestement, embrassa la fillette dans un élan de tendresse passionnée. Celle-ci accepta cette caresse subite et enfiévrée avec le même regard serein, quoiqu'un peu surpris. À partir de ce jour, s'établirent des rapports suivis entre la maison du possesseur et la métairie des Popielski. La fillette, qu'on appelait Evelyne, venait quotidiennement visiter son jeune voisin, et quelques jours après, elle devint aussi l'élève de Maxime. De prime abord, ce plan d'enseignement en commun ne plut pas outre mesure au pan Jakuski. Premièrement, il pensait qu'une femme capable d'inscrire le linge et de tenir les comptes du ménage en sait toujours assez. Secondement, c'était un bon catholique qui estimait que Maxime n'aurait pas dû batailler contre les Autrichiens, contrairement à la volonté du pape nettement exprimée. Enfin, il croyait sincèrement qu'il y a un Dieu dans les cieux et que Voltaire et tous ses sectaires bouilleront dans le groudon de l'enfer, sort qui, dans l'opinion de beaucoup de gens, était également réservé au pan de Maxime. Cependant, après l'avoir vu de plus près, il dut avouer que cet hérétique, que ce batailleur, était un homme d'une humeur très agréable et d'une grande intelligence, ce qui décida le voisin à donner son acquiescement. Néanmoins, une certaine inquiétude agitait l'âme du vieux gentilhomme polonais. Aussi, en amenant la fillette pour la première leçon, fut-il opportun de lui adresser un petit discours solennel et pompeux, qui du reste était principalement destiné aux oreilles de Maxime. « Écoute, Evelyne, » fit-il en prenant sa fille par les épaules et regardant son futur professeur, « rappelle-toi toujours qu'il y a un Dieu dans les cieux et son saint pape à Rome. C'est moi qui te le dis, moi, Valentin Jaskulski, et tu dois me croire parce que je suis ton père. Voilà mon primo. » Ici suivit un nouveau regard significatif dans la direction de Maxime. Pan Jaskulski soulignait son latin, faisait comprendre par là que lui non plus n'était pas étranger à la science et qu'il serait difficile de lui donner le change. « Secundo, je suis un seigneur polonais à l'illustre blason, où une croix n'est pas en vain dessinée sur un fond bleu à côté d'une meute et d'une corneille. Tous les Jaskulski, qui étaient dans le temps de bons chevaliers, s'entendait également dans les choses de ce ciel, et c'est pourquoi tu dois me croire. Mais quant au reste, en ce qui concerne orbis terrarum, c'est-à-dire les choses terrestres, écoute bien ce que te dira le pan Jagielko, et travaille bien. Ne craignez rien, pan Valentin, répondit en souriant Maxime. Nous n'enrôlons point des fillettes pour les bataillons de Garibaldi. Il se trouva que les études en commun étaient très profitables pour les deux élèves. Pietruccia était bien entendu en avance, mais cela n'excluait pas une certaine émulation. En outre, le jeune aveugle aidait souvent Evelyne à apprendre ses leçons, et elle, de son côté, trouvait parfois des procédés très ingénieux pour expliquer à Pietruccia certains points que sa cécité lui rendait difficiles à comprendre. Et puis, cette société apportait à ses occupations actuelles quelque chose de spécial, qui donnait à son travail intellectuel un genre particulier d'excitation agréable. Cette amitié était pour l'enfant, sous tous les rapports, un vrai don de la bienveillante fortune. À présent, il ne recherchait plus un isolement complet. Il trouvait là une société que ne pouvait lui procurer l'affection des grandes personnes, et dans les moments où son âme éveillée s'apaisait, sa proximité lui était douce. Ils allaient toujours ensemble sur le bord de la rivière. Quand il jouait de sa petite flûte, Evelyne l'écoutait avec un transport naïf, et quand il mettait de côté son chalumeau, elle lui communiquait les impressions vives et enfantines que produisait sur elle la nature environnante. Bien entendu, elle ne pouvait les exprimer
dans toute leur plénitude par des paroles appropriées. Mais en revanche, dans ces récits simples, dans ces intonations, il percevait le coloris caractéristique de chaque phénomène décrit. Ainsi, lorsqu'elle parlait, par exemple, de l'obscurité de la nuit humide et noire qui s'épandait tout autour au-dessus de la terre, il lui semblait entendre cette obscurité dans les sons de sa voix qui résonnaient timidement contenus. Et quand, levant en haut son visage pensif, elle lui disait « Oh, quel nuage là-bas, quel nuage sombre, tout à fait sombre !» il croyait sentir immédiatement un souffle froid, ouïr dans sa voix le frôlement effrayant d'un monstre rampant quelque part dans le ciel, dans des hauteurs inconnues.